pro du vélo, à suivre bien sûr sur toutes les plateformes d'Eurosport et en podcast aussi depuis quelques semaines. On ne va pas perdre de temps, on va regarder le menu de votre bistrot aujourd'hui. Ça commencera par des antipastilles de la Cassa. Et oui, on va parler du Giro, encore une belle étape aujourd'hui, une étape chamboulée par la météo. Notre plat de résistance, c'est un fondu de Briançon. Il est né à Briançon, c'est un homme qui a consacré sa vie au vélo. Dans un an, il sera depuis 30 ans à la tête de l'équipe AG2R Citroën. C'est Vincent Lavenu qui sera dans le bistrot du vélo dans quelques instants. Et puis on lui a fait un petit piège à Vincent, regarder le dessert. Ce sera un pancake et son sirop d'érable. On parlera de Ben O'Connor. Ben O'Connor qui pourrait être, pourquoi pas, le leader de l'équipe AG2R Citroën sur le prochain Tour de France. On accueille dans le bistrot, en direct, j'imagine, du Servir Course, monsieur Vincent Lavenu. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. La forme, Vincent ?
La forme, les formes, tout va bien. Ouais.
Surtout que ça gagne. Surtout que ça gagne, ça va mieux quand ça gagne. Il y a eu deux belles victoires, on les reverra, mais Andrea Vendramé et Benoît Cosnefroy ont claqué pour la maison AG2R Citroën là, cette semaine.
Oui, ça fait du bien. Ça faisait du bien parce que ça faisait depuis quelques semaines qu'on attendait ces victoires. Donc forcément, quand elles arrivent, ça détend un petit peu l'atmosphère. Et ça récompense tout le travail accompli par l'ensemble de l'équipe, que ce soit les coureurs, le staff et surtout l'investissement des partenaires.
Les partenaires, on en reparlera avec ce mariage de deux montagnes, hein, deux grandes marques françaises, AG2R et bien sûr l'arrivée de Citroën. Je ne sais pas si tous les enfants se rendent compte de ce que représente Vincent Lavenu dans le cyclisme. Alors, on a fait un graphique pour raconter un petit peu l'histoire de votre société France Cyclisme que vous avez fondée en 1992. Vous êtes né en 1956, le 12 janvier, à Briançon. Et vous en êtes, depuis la victoire de Benoît Cosnefroy, à 486 victoires. On a tout compté. On remercie Baptiste Ollier, d'ailleurs, qui vient d'arriver dans votre maison et qui nous a bien aidés. 19 victoires d'étape sur le Tour de France. 4 victoires d'étape sur le Giro, 6 victoires d'étape sur la Vuelta. Et puis on va regarder aussi ses victoires sur Paris-Nice en 2014, le Critérium à deux reprises, Tirreno-Adriatico, le Tour de Suisse, le Tour de Pologne, des classiques aussi avec la Flèche Wallonne en 1998. La même année, vous remportiez l'Amstel Gold Race. Il y a eu 65 victoires pour la maison France Cyclisme en 1998, des Kurn-Bruxelles-Kurn, un Paris-Tour et puis la Marseillaise. Vous enchaînez les victoires avec, encore une fois, cette année, la victoire d'Aurélien Paré-Peintre. Quel chemin parcouru ? Vous retournez de temps en temps, Vincent, dans le rétroviseur pour regarder ça ?
Non, pas souvent. J'ai tendance à vivre un petit peu les instants présents, peut-être trop passionnément d'ailleurs, parce que je pense que ça me laisse un peu d'énergie, mais c'est comme ça. Je ne regarde pas tellement derrière. Et puis souvent, je me projette sur ce qui va se passer dans les mois et les années futures, parce que c'est une équipe cycliste professionnelle, mais c'est d'abord une entreprise. Donc, la construction est quand même assez complexe. Il faut se battre comme tout entrepreneur tous les jours pour faire vivre sa boutique. Et Dieu sait si les challenges sont nombreux et si les enjeux sont importants. Voilà, donc non, je ne regarde pas tellement ce qui se passe derrière.
Il faut le rappeler, c'est votre entreprise, contrairement à Marc Madiou, qui est salarié de la sienne, contrairement à Cédric Vasseur, le manager de Cofidis. Là, ce sont vos deniers. C'est Vincent Lavenu qui est engagé dans cette société, qui a changé de nom, hein, elle a porté plusieurs noms, Casino, à l'époque de Jackie Durand. Mais c'est une vie de labeur.
Oui, bah c'est un investissement. Vous avez raconté notre histoire, hein, début en 92, avec un nouveau concept, une petite équipe. Et petit à petit, au fil des ans, on a franchi les paliers, on a grandi, on a rebaissé de niveau pendant un certain temps. Et puis, grâce notamment à AG2R Prévoyance, on a retrouvé le chemin des victoires et des succès. Donc voilà. Et depuis effectivement cette année, on a associé notre équipe avec Citroën, AG2R La Mondiale et Citroën. Donc on a des perspectives pour 5 ans. Donc c'est vrai que c'est une entreprise, c'est un travail au long cours. Mais chaque matin, il faut se remettre en question parce qu'on sait qu'il y a des challenges qui sont importants. Il y a de la concurrence qui est très forte. Hein. On fonctionne dans une dimension mondiale. On le sait, avec des budgets qui viennent d'un peu partout sur la Terre, avec notamment des budgets qui arrivent d'État, quelquefois, de consortium économique.
Les Émirats arabes, oui, pour ne pas les citer, ça ressemble un peu au football aussi.
Oui, alors bon, on joue tout simplement tous les jours sur le plan mondial, hein. C'est pas un championnat de France, c'est un championnat du monde finalement, parce que dans toutes les courses, même quand il s'agit de faire des courses en France ou des courses en Belgique, ce sont des courses internationales, donc la concurrence est très très forte. Il y a un classement, hein, c'est important, le classement mondial. Je peux vous dire que chaque équipe y prête de grandes attentions, parce qu'on sait que dans 1 an et demi, il y aura les sésames qui seront délivrés pour les licences pour le tour. Maintenant, on sait aussi d'abord, avant tout, qu'il y a des grandes victoires à aller chercher, et notamment ces victoires sur le Tour de France qui sont indispensables pour le retour sur investissement pour nos partenaires.
Oui, c'est là où effectivement les plans médias sont optimisés hein, pour AG2R et pour Citroën. On en parlera tout à l'heure de ce Tour de France. Si vous me permettez, Vincent, on va parler de l'actu, on va parler du Giro, de cette 16e étape du Giro que vous avez suivi forcément avec la
Bien
victoire
sûr.
d'Egan Bernal. On nous avait promis 212 km, finalement elle n'a fait que 153 km à cause de la météo et cette image incroyable. Egan Bernal qui, au moment d'arriver, enlève son imper pour montrer son beau maillot rose et avoir la photo. Avec le maillot rose, c'est sa deuxième victoire hein, seulement sur un grand tour. Il avait remporté l'étape de Campo Felice en début de Giro. Il a conforté bien sûr son avance au classement général avec Damiano Caruso qui a pris la deuxième place et Hugh Carty qui est ce soir troisième au classement général. Vous avez suivi ça, on a l'impression que Egan Bernal est transfiguré. Il y avait le Egan Bernal, l'enfant 2019 qui gagne le Tour de France. Il a eu des petits problèmes, hein, des problèmes de dos, des problèmes personnels. Et là, c'est un Egan Bernal patron, papa, j'ai envie de dire, Vincent.
Oui, bah, aujourd'hui, il maîtrise la situation dans un contexte quand même qui est compliqué. On voit que la météo, tous les jours, est extrêmement difficile à supporter pour les coureurs. Donc, on a vu des favoris perdre pied, hein, notamment encore aujourd'hui
Simon Yates.
avec Simon Yates qui a perdu du temps. Donc, voilà. Le Giro, on le sait, c'est une épreuve qui peut réserver son lot de surprises à tout moment. Hein, on se rappelle d'ailleurs Simon Yates il y a 3 ans quand il était en tête et qu'il a perdu pied finalement sur pratiquement la dernière journée de montagne. Donc là aujourd'hui effectivement Egan Bernal domine des pieds et de ses pédales la course, mais il reste 3 étapes de montagne. Voilà, faire attention, la météo peut laisser des traces. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand il pose une attaque, il la pose au bon moment. Et aujourd'hui, personne ne peut lui résister. Mais attention, attention, ce Giro, on sait que c'est un tour qui est extrêmement difficile et qui peut ménager des surprises jusqu'à la fin.
Le tour de l'équipe AG2R Citroën, le Giro est déjà réussi avec la belle victoire d'Andrea Van Bramme, votre Italien qu'on surnomme Van Bramix, hein, je crois, dans la maison. Vous l'avez découvert sur les routes des 4 jours de Dunkerque alors qu'il était chez Androni encore. C'est un garçon qui est arrivé il y a 2 ans et qui vous a apporté cette victoire. C'était le contrat à minima, la victoire d'étape.
Oui, évidemment, c'était le contrat minima. Donc, quand elle arrive, cette victoire, elle nous apporte le plus gros soulagement. On était tous au service course ici pour vivre ces instants en direct. C'est toujours beaucoup d'émotions, évidemment. Donc, je remercie Andrea parce que c'est un garçon qui est très discret, mais qui est vraiment charmant, qui est très agréable à vivre et qui est un vrai coursier, comme on dit dans le terme du cyclisme. C'est un vrai coureur qui a beaucoup de qualités de sprinteur, de grimpeur, de malice. Donc, c'est tous ces ingrédients qui lui ont permis de déjouer, on va dire, les pièges que les autres coureurs pouvaient lui tenter. Donc voilà, ça nous a fait le plus grand bien, effectivement. C'est le minimum syndical, si on peut dire comme ça. Maintenant, bon, ce que l'on attend, c'est que les autres coureurs puissent encore à nouveau se glisser dans les échappées, parce qu'on voit que finalement, bon, même si aujourd'hui c'est Bernal qui a remporté l'étape, on voit que souvent les échappées vont au bout. Donc il y a des opportunités, et c'est important que les coureurs les saisissent, ces opportunités, parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de grands tours, c'est pas le cas. Quand vous avez 2, 3 ou 4 journées où les échappées peuvent s'exprimer, eh ben aujourd'hui dans le Giro, ce n'est pas le cas. Donc il faut surtout que
8 victoires d'étape pour les échappées hein, depuis le départ
Voilà.
du Giro, c'est juste incroyable.
C'est incroyable, mais ça montre aussi que le peloton est très offensif. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, les équipes de leaders ne dominent pas le peloton international comme c'était le cas par le passé. Donc, même les grandes équipes qui défendent le maillot doivent calculer, doivent compter leur coup de pédale. Voilà, donc c'est important que les coureurs puissent en profiter. Et moi, j'incite mes coureurs évidemment à ne pas louper les échappées parce que c'est la seule façon de pouvoir remporter une étape.
Geoffrey l'avait pas raté, hein, l'échappée aujourd'hui. Geoffrey qui est passé en tête du premier sommet répertorié. Au passage, il a pris 40 points à Geoffrey Bouchard, qui est toujours le porteur du maillot de la Montagne, lui aussi réalise un très très beau Giro. D'ailleurs, il était dans l'échappée avec Andrea Vendramé le jour où Andrea s'est imposé. On rappelle que les deux coureurs sont potes. Ils font d'ailleurs chambre ensemble. Ce soir, on regarde le classement. C'est l'objectif maintenant, alors qu'on voit l'arrivée ici à Campo Felice, où il était proche de gagner. Il était tellement déçu. Geoffrey en larmes au micro d'Eurosport, il voulait la victoire. Est-ce qu'il va se consoler pardon, avec ce maillot de la Montagne? Un maillot de la Montagne qu'il a déjà gagné sur la Volta.
Oui, bah évidemment que là où il en est, il va se concentrer sur le maillot de la montagne. Maintenant, bon, il reste encore des trois étapes de montagne très difficiles. Donc, il n'aura pas d'autre choix que de se glisser encore une fois dans les échappées pour aller gratter des points à droite à gauche. Maintenant, je pense qu'au fond de lui-même, il a aussi cette victoire d'étape. Il faut que les circonstances. Bon, on sait qu'il. Geoffrey ne descend pas très, très bien sous la pluie. Il est en difficulté à chaque fois ces derniers temps dans les descentes de col. Maintenant, voilà, si la météo est plutôt favorable, il a toutes les qualités pour espérer une victoire d'étape. Donc, il va se concentrer sur ces deux objectifs. Évidemment, d'abord conserver le maillot à poids, en sachant qu'un Bernal, quand il arrive dans le final, c'est lui qui va chercher les points. Mais pourquoi pas se glisser dans une échappée et envisager la victoire d'étape, bien sûr.
Il possède, je crois, 29 points d'avance sur Egan Bernal, qui doit être deuxième du classement ce soir. Je vous laisse vérifier. Vous êtes de plus en plus nombreux. Posez vos questions. Hein. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Il y a Didier qui est arrivé, il y a d'Arthur, Daniel. Il y en a plein qui veulent des nouvelles de Romain. Vous avez regardé l'étape. On a gardé ça pour la fin. Romain Bardet, deuxième. Romain, il est parti, mais ça reste un enfant de la maison. Romain Bardet, vous devez avoir encore un cœur plein d'amour pour votre ancien petit protégé, deuxième qui s'est relancé. Hein, ce soir, il est septième au classement général, Romain Bardet.
Oui, bien sûr, j'ai suivi cette étape et c'est vrai que Romain est un garçon qui s'exprime parfaitement sous les conditions météorologiques très difficiles. Donc aujourd'hui, je crois que lui n'avait pas peur du tout de cette étape. Il s'en est très très bien sorti. Hein. Il termine deuxième. Il a fait une remontée au classement général. Donc il y a encore de belles choses à réaliser. Je pense qu'il peut envisager le podium final hein, avec les étapes de montagne qu'il reste. On sait que le contre-la-montre ne sera pas favorable le dernier jour, mais il y a quand même de. Je pense que Caruso est même à sa portée. Hein. Il n'est pas très très loin devant.
Voilà. Ce bon, soir, hein, Caruso au général.
On a toujours. On va dire une tendresse particulière pour Romain, hein, même si cet hiver, bon, il a rejoint une équipe concurrente.
C'était voilà, prévu. C'était quelque chose qui. Bah, vous avez parlé, je pense, depuis un moment avec Romain. Il y a peut-être une envie d'ailleurs pour Romain, une fin de cycle, hein, tout simplement.
Oui. Alors, je sentais bien que Romain était dans ce questionnement de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je finis ma carrière chez AZR Citroën ou est-ce que je vais découvrir une autre aventure et on sait que Romain est quelqu'un de curieux, qu'il avait envie effectivement de tenter l'aventure à l'étranger. Voilà, donc ça s'est très bien passé, même si moi j'ai tout fait pour le convaincre de rester avec nous parce que notre projet avec AG2R et Citroën était important. Donc Romain faisant partie de cette histoire, ça me paraissait normal qu'il continue avec nous. Maintenant, j'ai tout à fait compris sa démarche et voilà, et on se salue toujours, il n'y a aucun souci avec lui et je comprends tout à fait sa démarche. Voilà. À côté de ça, il faut juste comprendre qu'une équipe, c'est pas un coureur. Quand bien même ce coureur est charismatique et nous a apporté les grandes victoires, je vous le disais tout à l'heure, on est en construction jour après jour. On a, vous le savez, de jeunes talents qui sont aussi en train de monter à un très très haut niveau.
On a parlé de Romain un petit peu. J'aurais quand même vous entendre sur Pierre Latour. Parce que Pierre Latour, j'avoue que autant Romain j'ai compris, Pierre Latour j'ai été surpris. Quand je l'ai vu partir de la maison AG2R, la mondiale l'année dernière, c'est vrai que on s'attendait à le voir prendre le relais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre?
Ouais, Pierre a fait le choix, effectivement, il a eu une opportunité avec l'équipe de Jean-René Bernodeau. Hein. Je crois que l'offre était importante, c'est pareil. Il a eu envie de peut-être découvrir autre chose. Donc voilà, bon, c'est encore une fois, c'est respectable. Hein. Les coureurs font un parcours chez nous. Il y en a quelques-uns qui ont fait toute leur histoire chez nous. Je pense par exemple à Christophe Riblon qui est rentré professionnel chez nous et qui a terminé sa carrière. D'autres restent 2 ans, d'autres 5 ans. Voilà, Pierre Latour a eu cette opportunité auprès de Jean-René Bernodeau. Il a relevé le challenge. Donc, il y a aucun souci avec ça. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un athlète et c'est l'histoire d'une équipe. Donc, encore une fois, on se salue avec Pierre. Il n'y a pas de souci. c'est une suite logique, tout simplement, d'une carrière. Voilà, donc aucun problème.
Aucun problème. On va regarder le Mondomètre. Le Mondomètre, c'est le classement des victoires des équipes World Tour. Alors, je suis désolé, on a le top 10. Vous n'apparaissez pas. Aujourd'hui, une 21e victoire pour l'équipe Ineos Grenadier, grâce à Egan Bernal. La meilleure équipe française, c'est la Groupama FDJ. Au niveau, eh bien, du classement des équipes françaises, on a mis toutes les équipes, hein, les Conti Pro, les World Tour. Là, vous apparaissez. Trois victoires. On a attendu un petit peu, hein. C'est toujours le problème. Il ne faut pas gagner la Marseillaise. Vous savez, il y a une malédiction avec la Marseillaise. Aurélien l'a gagnée et derrière, on a du mal. Par contre, la bonne nouvelle est venue du Tour du Finistère, parce que votre petit prince, comme l'appelle Oliver Nessen, après un printemps compliqué, s'est imposé. Benoît Cosnefroy, qui était blessé et qui est allé tout de suite chercher pour sa rentrée une victoire. C'est votre prochain grand coureur pour les classiques, hein, au même titre que les Van Avermaet et les autres. Lui, c'est plutôt un Ardennais, une pépite, ce Benoît Cosnefroy.
Oui, Benoît a démontré l'année dernière que c'est un coureur qui est capable de jouer au plus haut niveau du cyclisme mondial, hein. Il a joué avec les meilleurs dans des classiques, des grandes classiques mondiales. Donc voilà.
Podium sur la flèche.
La flèche Wallonne, voilà, où d'autres, je me rappelle, il y a 2 ans, il s'était fait rattraper à 100 mètres de l'arrivée du Grand Prix de Montréal. Donc voilà, on sait que c'est un garçon qui va en taper une grosse d'ici peu. Voilà, cette année, il a été pénalisé par une douleur au genou en début de saison, ça l'a contrarié. Là, il semble que tout rentre dans l'ordre. Il a bien travaillé, notamment en stage la semaine dernière avec l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a toutes les raisons d'espérer avec lui, hein. Mais c'est vrai que vous avez parlé du nombre de victoires et c'est vrai que 3 victoires, c'est pas suffisant. On a bien conscience, hein. On attend beaucoup plus que cela. Faut pas oublier quand même qu'on était pénalisé par des blessures sur certains coureurs importants. Je pense qu'à Lilian Calmejean, qui était blessé pratiquement depuis le début de saison.
Ah, une nouvelle recrue, il s'est blessé tout de suite, il dit.
Bob Jungels, qui a aussi eu un traumatisme crânien sur l'Amstel Gold Race.
Qui a fait sa reprise aujourd'hui, qui était sur le Mercantour, qu'on retrouvera sur les boucles de la Mail. D'ailleurs, Aurélien a fait deuxième, hein, aujourd'hui sur le Mercantour.
Aurélien a terminé deuxième.
Ouais, voilà, première victoire pour Guillaume Martin, pour l'équipe Cofidis, qui n'avait jamais gagné.
Et on a aussi des garçons comme Michael Schérel qui ont été blessés. Aujourd'hui, Ben Gastauer. Donc voilà, on n'a quand même pas été épargnés par les blessures. Ce qui fait que tout de même, ça a baissé quand même notre capacité de gagner des courses. Je crois qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase de progression, une dynamique positive. Donc voilà, on va essayer de cultiver ces moments-là. On sait que les courses qui vont arriver sont des moments importants, hein, évidemment, avec le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, le Championnat de France, le Tour de France. Donc effectivement, il faudra briller, il faudra absolument être présent sur ces courses qui arrivent pour satisfaire encore une fois notre appétit de victoire.
Petite question, on la prend à la volée, question intéressante, c'est François qui vous la pose. Est-ce que l'équipe de Chambéry, est-ce que vous avez pour ambition de les faire passer en Conti? En Conti pour, à l'instar de l'équipe Groupama FDJ, pouvoir s'en servir un petit peu sur certaines courses et ventiler les choses et avoir une expérience au contact de l'élite pour ces jeunes de Chambéry. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans la tête de faire passer cette équipe en Conti?
Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question il y a 2 ans. On s'est posé la question de savoir si c'était une orientation que nous devions prendre. Et après, donc, avoir bien réfléchi, on s'est dit que finalement, ça ne correspondait pas au concept qu'est le nôtre. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui font des études. Il ne faut pas oublier que notre concept, c'est la biqualification. Et des garçons qui sont sur place, qui sont tous ici à Chambéry, qui sont à l'université, donc ils ont ce projet de double projet avec du cyclisme haut niveau, hein, ce sont les garçons qui font des courses internationales. Ça veut dire que s'ils passaient en Conti, ce sont des garçons qui ont un statut professionnel. Et voilà, aujourd'hui c'est pas notre souhait. On souhaite conserver ce qui a marché depuis 20 ans, c'est-à-dire de rester concentré sur le fait que ces garçons puissent aller au bout de leur cursus universitaire tout en faisant du haut niveau. Voilà, donc souvent on récupère les garçons auprès de 2 ou 3 ans de passage dans cette équipe et les meilleurs intègrent l'équipe professionnelle. Aujourd'hui, on reste sur ce schéma-là.
Mais vous aviez envisagé la question et c'est une réflexion que vous avez au sein de l'équipe AG2R Citroën. Une autre question rapidement, Vincent. François, toujours même, quelle est la différence de budget entre Ineos et AG2R Citroën? Parce que des fois, les gens ne le comprennent pas. C'est du simple au double, hein, Vincent, pratiquement.
Et oui, je pense que c'est le double, hein. Nous, on a annoncé notre budget, c'est 23 millions d'euros. Et Ineos, je pense que c'est entre 45 et 50 millions d'euros. Mais il y a quand même tout de même quelque chose qui est très important, hein, c'est que les équipes françaises, comme certaines équipes étrangères, payent des salariés et qu'un grand nombre d'équipes étrangères payent des travailleurs indépendants. Donc c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas le même droit du travail, c'est pas la même couverture sociale, ce sont pas les mêmes acquis
c'est
sociaux.
Comme ça.
Et d'ailleurs, on l'a bien vu, Vincent, pendant la crise de la Covid. Certains coureurs dans les
C'est
équipes
ça.
étrangères n'étaient pas payés, alors que les Français ont pu avoir une activité professionnelle et ont pu bénéficier aussi de salaires un petit peu. Vous avez demandé des baisses de salaire aux coureurs?
Non, pas du tout. Non, non, on est resté sur nos salaires. On a pas fait de baisse de salaire ni pour le staff ni pour les coureurs. On est resté sur ce que voilà, ce qui était écrit dans les contrats. Simplement, voilà, c'est notre organisation en France qui est comme ça. Il y a rien à dire. C'est notre système, donc on fait avec. Mais la concurrence, évidemment, n'est pas tout à fait, on va dire, en notre faveur par rapport à pas mal d'équipes étrangères.
On verra hein, si, pourquoi pas, avec l'arrivée du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, pardon, il ne faudra pas installer peut-être un salary cap en quelques années pour qu'on ne dénature pas ce qu'est le vélo. On verra. On va faire le petit
Oui,
questionnaire
c'est
bistro
une
vélo
question.
à Vincent Lavenue. 5 questions, Vincent. Question très très courte, vous allez voir. Si tu devais n'en gagner qu'une, Vincent, ça serait laquelle comme manager hein?
Ah ben c'est le classement général du Tour de France, bien sûr. Bien sûr. On est passé très près, hein,
Deuxième et
avec
troisième Romain.
Romain. Ouais, deuxième, troisième Romain, Jean-Christophe.
Jean-Christophe,
Hein,
troisième aussi en
Jean-Christophe Pérault, qui
2014,
était
derrière Nibali et Thibaut Pinot.
Deuxième, deuxième.
Deuxième, pardon.
Deuxième, Jean-Christophe.
Devant
Deuxième.
Thibaut Pinot, pardon. Oui.
Voilà, devant Thibaut Pinot. Donc voilà, évidemment, on sait très bien que l'attente du public, des journalistes, de tout le monde, des sponsors, c'est évidemment de trouver notamment un Français qui puisse gagner le Tour de France. Donc s'il y en a une à gagner, c'est celle-là, bien sûr.
Je sais plus ce qu'il y a. Il y a Michel qui dit je mets 30 millions. À 30 et 23, vous êtes à 53 pour rivaliser avec les Ineos. Là, on a 30 millions. Alors, s'il y en a qui veulent mettre plus, par contre, il faut nous signer des reconnaissances là, parce que c'est facile de mettre 30 millions comme ça.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quelques
vous savez, c'est pas qu'une question d'argent aussi. Bien sûr que dans le monde professionnel, dans le sport professionnel, les gros budgets font souvent la différence. Évidemment, si on fait le parallèle avec le foot, on voit souvent que les gros budgets européens sont devant dans les championnats. Mais là, en l'occurrence, cette année, on voit bien que en France, Paris s'est fait battre par Lille. Donc voilà, ça aussi, c'est un bel exemple. Mais je crois que nous, on n'est pas arc-bouté sur les finances. On est arc-bouté sur la formation, sur le fait de faire du cyclisme propre, faire du cyclisme qui permet à des jeunes de s'épanouir.
Contrairement à d'autres équipes étrangères, vous êtes membre du MPCC, comme toutes les équipes françaises, par exemple.
Oui, c'est un choix. C'est un choix. On fait partie des membres fondateurs du MPCC. Et je crois que Roger Leger fait un gros, gros travail, justement, pour faire en sorte que le cyclisme soit reconnu au niveau mondial, que ce soit par les instances de l'Agence mondiale antidopage, par l'UCI. Donc voilà, je crois qu'on a des convictions très fortes et on s'attache à ces convictions. Et voilà, je crois qu'on a aussi envie de permettre à des jeunes de s'épanouir. C'est pour ça qu'on est très attentif au fait que les garçons aillent au bout de leur cursus universitaire et ne mettent pas tout dans la balance au niveau du cyclisme et qui, après quelques années, puissent se retrouver sans rien. Donc, c'est très important.
On continue le questionnaire, Vincent. Quel coureur tu signerais demain, tiens?
Van der Poel.
Mathieu, si c'était possible.
Ouais. Mathieu, c'est un coureur extraordinaire hein, qui il a un talent fou, il sait tout faire. Voilà, c'est un coureur charismatique, beau avoir pédalé, il est capable de gagner presque sur tous les terrains. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il envisage de gagner un grand tour parce qu'il est massif pour ça et puis je pense qu'il ne se l'est pas mis dans la tête, mais il a un talent incroyable.
Et puis, il y a l'objectif médaille d'or sur les JO en VTT cette année pour Mathieu Van Der Poel après la pétence pour les classements généraux. Après, il dit, moi, je ne suis pas comme papy, hein, je ne suis pas un coureur de classement général, je suis plutôt un coureur maillot vert. On verra, on rappelle que son papy, c'était Raymond Poulidor. À part Vincent Lavenue, quel coursier tu aurais aimé être?
Oh ben, quel coursier j'aurais voulu être un grimpeur, parce que je suis issu de, comme vous l'avez dit, je suis né à Briançon dans les Hautes-Alpes, hein, le Galibier, l'Issoire, J'habite en Savoie, donc moi, quand je regarde devant ma fenêtre, je vois, même si là c'est un petit peu gris, je vois pas grand-chose en vérité. Mais bon, on a tous les cols dans la région, donc j'aurais voulu être un meilleur grimpeur que ce que j'ai été.
Ah non, l'idole de Vincent, l'idole de jeunesse, le grimpeur, c'était qui? C'était Ocagna, c'était Bahamontes?
Non, moi c'était Merckx à l'époque, parce que ma première licence c'était en 1969 quand j'étais minime, et c'est la première année où Merckx a gagné son premier Tour de France, donc j'avais des yeux tout tournés vers Eddy Merckx. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand je côtoie très rarement, mais quand je côtoie Eddy Merckx, j'ai toujours une retenue. C'est le monstre straqué du cyclisme. Donc voilà, j'ai une admiration énorme pour Eddy Merckx.
Moi, juste quand vous en parlez, j'ai la chair de poule. Vous voyez, c'est vrai que quand on rencontre Eddy Merckx, qu'on aime le vélo, c'est un peu pareil avec Bernard Hinault. J'avoue, j'ai un peu ce rapport aussi avec Bernard Hinault. On a l'impression de voir Dieu, quoi, hein, de voir quelqu'un qui est un petit peu différent. Si tu n'avais pas fait de vélo, tu aurais fait quoi, Vincent Lavenue?
C'est une bonne question. J'ai une petite formation comptable, ce qui m'a aidé à produire mes premiers budgets et convaincre mes partenaires, mais je ne sais pas si j'aurais été bien enfermé dans un bureau toute la journée. Donc je pense que je serais allé dehors pour faire du sport, pour encadrer des jeunes, ou j'aurais été entrepreneur, parce que je pense que j'ai cette fibre entrepreneuriale, donc pour créer quelque chose.
Dernière question, la question la plus con qu'on t'ait posée dans une interview.
C'est quoi la question la plus con?
Celle qu'on t'a posée, la question la plus con. Des fois, les journalistes, moi le premier.
Je sais pas. Que vous êtes content d'avoir gagné.
C'est le genre de truc. Bon, on va s'arrêter là. On va passer à la deuxième partie. On a déjà pris beaucoup de retard. Vous êtes très nombreux, plus de 300 dans le bistrot. Je vous rappelle, partagez. Vous pouvez retrouver ça en podcast également. Deuxième partie, on appelait ça à G2R Citroën le mariage des montagnes. Parce que oui, ce sont deux montagnes françaises en termes d'entreprise. Vous êtes de Chambéry. Là aussi, il y a des montagnes. Ça a été critiqué. J'ai vu Citroën qui arrive. Moi, j'ai pas compris. J'étais plutôt fier de voir une marque française comme ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande bagarre entre l'écologie et le vélo. Il y a des voitures électriques. Mais moi, je suis quand même plutôt fier de voir qu'aujourd'hui, une grande marque française s'est impliquée dans le vélo. Une grande marque de l'automobile, ça fait partie des leaders à l'étranger de ce qui représente la France. Vous devez en être fier, ça aussi.
Oui, alors moi, les critiques, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai plutôt, au contraire, des félicitations de faire en sorte qu'une grande entreprise de dimension mondiale, une entreprise française, mais de dimension mondiale, intègre le cyclisme, en plus dans une période qui était quand même assez compliquée sur le plan économique. Donc ça veut dire que, évidemment, ces grandes entreprises, quand elles intègrent un sport, elles ne viennent pas comme ça pour faire un one-shot, et elles y ont réfléchi un petit peu quand même avant. Donc je pense que c'est très bien pour le cyclisme, très bien pour le cyclisme mondial, qu'une grande entreprise de dimension mondiale intègre une équipe, et en plus qu'ils choisissent notre équipe à G2R, la mondiale à l'époque, pour s'associer, c'est une grande fierté. Donc voilà, je crois qu'il y a toutes les raisons d'être satisfait, c'est très encourageant pour notre sport. Et voilà, je remercie aussi quand même notre partenaire historique à G2R, la mondiale, de nous avoir accompagnés là-dessus. Parce que,
Ils sont là depuis combien de temps à G2R?
Écoutez, ça va faire 25 ans.
Bravo.
Ils sont là, à nos côtés. Donc, ils auraient pu dire, non, on veut rester tout seul, nous, ça nous convient bien comme ça. Et finalement, ils ont accepté notre schéma, notre projet, que de pouvoir monter en puissance et d'accepter un nouveau partenaire. Mais non seulement ils nous ont accompagnés, mais ils nous ont encouragés. Et c'est grâce à leur accompagnement, grâce à leur bienveillance, qu'on a réussi à faire effectivement intégrer Citroën au sein de l'équipe. Et maintenant, on a un projet à 5 ans. Donc, par contre, il va falloir qu'on assume, parce que quand on vend à nos partenaires l'idée de pouvoir monter au plus haut niveau, maintenant, c'est à nous d'assumer.
Avec des recrues, pas forcément celles qu'on attendait. Hein. C'est vrai, vous parlez de classement général. On sait que Vincent Lavenue aime aussi le classement par équipe sur les grands tours. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis là, on est allé chercher des garçons qui vont chercher les courses d'un jour. Greg Van Avermaet, Bob Jungels. On a monté une équipe de classiques. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix, Vincent? Alors après, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau vélo. Ça, c'est très important. On en a un peu parlé. Vous avez signé avec la marque BMC. Et on le sait, c'est un petit gain hein, pour toute l'équipe. Il y a une bataille technologique également.
Oui, alors ce choix, nous, évidemment, aujourd'hui, c'est vrai que les opportunités qui étaient les nôtres l'année à l'intersaison étaient de pouvoir effectivement recruter des grands coureurs. Greg, c'est un, un coureur, le champion olympique, on connaît son charisme et ses qualités. Donc voilà, c'était une belle opportunité pour nous. Voilà, Bob Jungels également. Derrière, on n'a pas trouvé sur le marché, entre guillemets, excusez-moi de l'expression.
C'est comme ça aujourd'hui, Vincent.
Ouais, mais on n'a pas trouvé donc de coureurs, on va dire grimpeurs, capables d'adhérer à ce que l'on cherchait en termes de coureurs grimpeurs. Maintenant, on n'y renonce pas dans les années qui viennent, que ce soit pour 2022, 2023, 2024. On va s'attacher à faire en sorte que on retrouve le haut niveau dans la montagne. Alors cette année sera certainement une année un peu expérimentale où on va pas mettre de pression sur le classement général, notamment sur le Tour de France ou le Dauphiné, parce qu'on a des jeunes grimpeurs en devenir, mais ils sont peut-être pas prêts encore à assumer le rôle de leader au plus haut niveau, même si demain peut-être qu'ils le seront. Donc si on a des opportunités pour faire entrer un grimpeur dès 2022 ou 2023, c'est ce qu'on fera. Voilà.
On se comprend quand vous dites un grimpeur, vous me parlez d'un leader pour le classement général.
Oui, d'un grimpeur capable de jouer, on va dire, les premiers rôles, comme le faisait Romain Bardet chez nous. Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous considérez que vous avez des jeunes coureurs chez vous qui seront capables dans le futur d'atteindre le plus haut niveau. C'est ce qu'on a fait avec Romain Bardet, c'est ce qu'on a fait avec Pierre Latour. Hein. Je rappellerai que Pierre Latour a terminé maillot blanc du Tour également et 14e du Tour. Voilà, soit on continue à savoir ce qu'on sait faire, hein, cette filière de formation, activer cette filière de formation, soit on essaye de trouver des opportunités également sur le marché, mais en sachant qu'aujourd'hui, les grimpeurs sont très recherchés. Effectivement, les tarifs montrent de manière incroyable. Donc voilà, on est attentif, on fait notre travail. Il y a les agents, même si la période des transferts, on sait que c'est le 1er août, mais je peux vous dire que les agents nous sollicitent très régulièrement. Et nous-mêmes, nous appelons ces gens-là pour essayer de trouver une opportunité. Mais sachez que la concurrence est très, très raide.
Ouais, on l'imagine, de plus en plus d'agents. Et ça, c'est pas bon pour les prix, parce que plus il y a d'agents, plus les prix ont.
C'est l'offre et la demande, vous savez.
Mais il y a beaucoup plus d'agents qu'il y a 20 ans dans le vélo. Aujourd'hui, pratiquement tous les coureurs. Je pense que quand vous avez discuté avec Jackie Durand, à l'époque, hein, vous n'avez pas vu d'agent. Hein.
Alors, sachant qu'avec Jackie, c'était difficile les discussions, quand même, vous imaginez bien. Hein.
Ah, mais ça, j'en suis certain. Mais par contre, il n'y avait pas d'agent parce qu'il n'est pas bête, il ne va pas donner une commission.
Il y en avait
à l'agent.
Beaucoup moins, oui. Aujourd'hui, moi-même, dans mon portefeuille, je dois avoir un peu plus de 30 agents avec qui je peux discuter. Ouais.
On nous dit, là, Antoine parle de Simon Kerr. Simon Kerr qui a été impressionnant aujourd'hui. Ouais. Simon Kerr qui est français, hein, depuis quelques temps, élevé aux courses amateurs du Sud-Ouest, à la Delco également.
Ouais.
À suivre, Simon Kerr.
Très bien, mais j'ai vu aussi qu'il était sous contrat encore en 2022 chez EF.
Bon, ça c'est fait, donc Vincent a regardé quand même. On va passer directement à la dernière partie, Tour 2021. J'avais une question à vous poser. Le général, mon général, point d'interrogation, mais je crois que vous avez répondu. On ne va pas forcément jouer le classement général. Ce ne sera pas une obsession cette année sur le Tour de France. On va courir différemment. Clément Champoussin était aligné sur le Giro. Il a été malade, il n'a jamais récupéré. Est-ce qu'il y sera ? Ça, vous nous le direz ou pas. Aurélien Paré-Peintre aussi doit grandir avant d'aller se frotter à ce qui se fait de mieux en World Tour. Général ou pas général, mon général ?
Alors... On va pas laisser tomber le général complètement parce que c'est toujours important d'avoir un garçon qui se balade dans le haut du classement et qui même s'il joue pas les premiers rôles dès la première année, prenne ses automatismes de se battre chaque jour pour aller au devant du classement. Donc voilà, on va pas mettre de chiffres, on va pas mettre de pression particulière sur nos coureurs. On va simplement être attentif, être concentré sur le sujet, mais en sachant qu'effectivement, on ne va pas viser le podium, comme c'était le cas avec Romain Bardet, puisqu'on envisageait de ah, j'ai une petite coupure.
Le son passe, ouais, impeccable. Petite coupure d'image, mais le son est impeccable, Vincent. Ne vous inquiétez pas.
Si je vous dis qu'en même temps que je vous parle, c'est un agent qui m'appelle, donc je raccroche.
Donnez-moi le nom, comme ça je vous dirai quel est le coureur.
Non, je ne vous dis pas qui c'est.
C'est un Finlandais, l'agent ? C'est un Français ?
Non, je ne vous dis pas, je ne vous en dirai pas plus, parce que vous allez deviner sinon.
Et puis on n'est pas seul, hein, on est de plus en plus nombreux dans le vélo. Faites gaffe, hein, dans
le bistro. Voilà, donc je vous disais, pour le classement général, on va rester concentré, parce que c'est très important d'être pas trop loin en voiture dans la file et de se balader quand même devant et de donner ses bonnes habitudes aux coureurs d'aller faire le général. Mais cette année, on sait qu'on n'a pas le garçon qui peut envisager une place dans le top 5.
Voilà. Celui qu'on va former, c'est Aurélien Paré-Peintre. Celui qu'on va former pour le futur. Vous pouvez nous dire ça, quand même, le vainqueur de la Marseillaise.
On n'a pas annoncé encore les coureurs. Il y a quatre coureurs qui ont été annoncés pour le Tour. Hein. C'est Benoît, c'est Greg Van Avermaet, c'est Oliver Nassen et c'est Bob Jungels. Évidemment qu'Aurélien, on regarde ses résultats depuis le début de saison, on devrait faire partie de l'effectif, mais ce n'est pas encore officiel. On annoncera ça très bientôt, un peu après le Dauphiné libéré, critérium du Dauphiné, pardon. Et voilà, mais je pense qu'Aurélien, effectivement, est un garçon qui a du talent, qui sait faire pas mal de choses, qui grimpe bien, qui est adroit, qui est malin, qui va un peu vite au sprint, qui descend plutôt bien. Donc, il a tous les atouts pour faire un très, très bon coureur dans les grandes courses par étapes. Ouais.
Il y a une préparation, vous avez parlé de stages, j'imagine que Greg, Oliver, Bob Jungels et Benoît étaient ensemble en stage
alors
en altitude.
Alors non, on a fait deux groupes différents, on a fait un groupe au Grand Bornand, avec notamment des coureurs qui ne supportent pas forcément l'altitude, et puis on avait un autre groupe qui était plutôt dans les Alpes du Sud, hein, qui s'est baladé à 2000 mètres d'altitude et qui a travaillé justement la montagne. Donc on a fait deux groupes différents.
Benoît qui a porté le maillot de la montagne, est-ce qu'il peut progresser encore en altitude, Benoît Cosnefroy, qui est avant tout un puncheur hein, plus qu'un véritable grimpeur?
Oui, Benoît est un puncheur pour moi de dimension mondiale. Je crois qu'il connaît pas et nous-mêmes nous ne connaissons pas encore ses limites. Voilà, aujourd'hui, Benoît ne souhaite pas se concentrer sur un classement général, mais si on regarde bien le parcours d'Alaphilippe, il y a quelques années, c'était pas un garçon qui jouait le classement général et puis il s'est retrouvé avec le maillot jaune prêt à gagner le Tour de France il y a 2 ans de cela. Donc voilà, on peut pas préjuger de ce que sera la capacité de Benoît dans les années futures pour jouer le classement général.
Après, moi, je ne lui mets pas de limite. Oui, mais moi, j'ai bien regardé le départ du Tour de France, quand même.
Oui,
c'est
départ du
punchers,
Tour.
Hein. Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Wout Van Aert, on devrait retrouver ces garçons du côté de Mur de Bretagne. Il y aura peut-être un maillot jaune à aller chercher.
Ça va inspirer pas mal de monde, ouais, effectivement. Comme vous l'avez dit, vous avez cité les bons noms, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui va aller chercher le maillot jaune dès le début du Tour. Ouais.
Il y a une belle satisfaction qui est peut-être un petit peu plus passé inaperçu, c'est Ben O'Connor, le Canadien, qui est allé chercher une belle étape dans cette fameuse étape sur le Tour de Romandie. On va revoir les images avec l'incitant, bien sûr, pour Geraint Thomas, hein, et qui tombe au moment de se disputer la victoire avec Michael Woods, un autre Canadien. Ben O'Connor qui est allé finalement chercher la deuxième place, et on le suit. Est-ce que lui, il va partir au Tour? J'ai envie de poser la question. Parce que lui, on se dit quand même que voilà, si vous voulez placer quelqu'un dans l'optique d'être bien placé dans la file des voitures, parce que Vincent Lamy, on ne va pas le changer complètement. Je ne vois pas Vincent dire à ses copains, enfin, ses salariés, on ne va pas faire le classement général. Vous aimez le classement général déjà par équipe. C'est quelque chose que vous appréciez.
Oui.
Ben O'Connor, c'est une belle petite cartouche quand même.
Alors, ce que vous voudriez, c'est que je vous donne l'effectif du Tour.
Non,
tout
je voudrais
suite,
un nom. Je voudrais un nom avoir un scoop pendant la 4. Je voudrais juste un nom.
Non, mais Ben. Alors d'abord, oui, il n'est pas canadien, il est australien.
Ben O'Connor est australien, bien sûr.
Voilà. Hein, donc oui, c'est une belle surprise. Hein. Ben O'Connor, c'est une très belle surprise. C'est un garçon que je suivais depuis quelques années déjà. Je l'avais rencontré d'ailleurs. J'avais parlé un petit peu avec lui à l'époque. Quand le Giro était parti d'Israël, bon, c'est un garçon qui avait pas souhaité rejoindre l'équipe à ce moment-là, mais je savais que c'était un garçon qui avait un grand talent. Donc, bon, on a trouvé l'opportunité à ce qu'il intègre l'équipe cette année, et c'est une très belle surprise. Effectivement, c'est un très bon grimpeur, très agréable à vivre. Donc voilà, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin avec lui. Encore une fois, sans prévaloir la sélection du Tour, je pense que c'est un garçon qui effectivement nous a montré de belles choses depuis le début de saison. Donc c'est un bon grimpeur. Je pense qu'on va faire quelques belles choses avec lui.
Un petit lui. Comment ça se passe? C'est Julien Jourdi, son Revo DS, ce sont les entraîneurs. Et puis à la fin, c'est Vincent qui tranche. Il y a 9 noms et qu'il n'en faut que 8.
Oui, c'est un partage avec les directeurs sportifs, les entraîneurs. Hein. On se réunit assez régulièrement. On a déjà sorti une liste en début de saison. Cette liste, mois après mois, semaine après semaine, elle se réduit. Aujourd'hui, on va dire qu'on a une dizaine de noms pour le départ du Tour. Donc, on regarde ce qui va se passer sur le Dauphiné, sur le Tour de Suisse et sur les courses qui vont venir. Mais on doit pas être très loin du compte sur notre réflexion actuelle.
On est déjà à la fin, on a passé déjà plus de 40 minutes ensemble, Vincent, vous ne l'avez pas vu passer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Et moi, je vais finir par une petite salve de questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook, on retrouve ça sur Le Play, on retrouve ça un petit peu partout, hein, le.fr, et même en podcast. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors qu'on va voir quelques belles photos de Vincent Lavenue, avec les plus grands, hein. Emmanuel Macron, avec Romain Bardet, et puis la proximité également avec vos coureurs. Hein. Vous êtes très très proche de vos coureurs, là aussi, ce sont un petit peu vos enfants. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent Lavenue en cette année 2021 de vélo?
Alors déjà gagner une ou deux étapes sur le Tour, c'est la grande libération quand on remporte des étapes sur le Tour. C'est vraiment ce qui nous ravit, qui apporte on va dire du bonheur à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des coureurs, de celui qui gagne bien sûr, mais au niveau de toute l'équipe, du staff qui a travaillé, au niveau des partenaires qui sont là, qui nous accompagnent et qui nous suivent. Voilà, d'abord les étapes du Tour, si on pouvait en gagner deux la même année, ce serait sympa. Une grosse World Tour, hein, on avait dit qu'on voulait gagner un monument, donc il va en rester deux.
Il y a eu troisième place sur le Ronde van Vlaanderen.
Ouais, ça ce qui est bien parce qu'on l'avait jamais fait depuis 29 ans quand même. Hein. Greg a été à la hauteur sur le Tour des Flandres. Il reste Paris-Roubaix qui va être organisé en fin de saison et le Tour de Lombardie. Donc on s'est dédié un monument. Donc il reste deux chances encore. Mais de toute façon, des courses sur le Tour de haut niveau. Et là, je pense qu'on a des atouts pour ça. Vous avez parlé de Benoît, vous avez parlé effectivement de Greg Van Avermaet, de Bob Jungels. J'espère qu'il retrouvera son niveau. Et puis, on a des jeunes talents derrière qui arrivent, qui montent en puissance. Donc voilà, gagner des courses sur le Tour, gagner des étapes du Tour et puis remonter au niveau du classement mondial parce que c'est important de tenir notre rang.
Des questions qui arrivent. Du coup, d'ailleurs, ils sont plus incisifs que moi. Alexis Goujard, fin de contrat, prolongation ou pas pour Alexis Goujard? Ça discute. Qui est en ce moment sur le Giro.
Ça discute avec ses agents, bien sûr. On va dire que Alexis est un garçon qui a fait quand même un bon parcours chez nous, qui a remporté des épreuves. Pas mal de courses, il a un beau palmarès.
Une victoire sur la Vuelta, pas mal de Coupes de France également.
Oui, il y a une année, il a gagné 5 courses dans l'année quand même. Hein. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Voilà, donc on discute actuellement avec ses agents pour savoir si on reconduit ou pas.
Il y a la même question qui arrive, tout le monde la pose. Là. Il y a Léo, Sébastien, Thomas, Sagan chez AG2R. On le met partout en ce moment, Sagan. Problème, vous venez de changer de marque de vélo. Je crois qu'il va falloir rechanger si vous prenez Peter Sagan.
Non, notre marque de vélo convient très bien. BMC, on a beaucoup travaillé pour cela, vous le savez.
Je sais bien. Donc, c'est l'un de vos gros succès. Vous ne voulez pas dire, mais c'est l'un de vos gros succès de la saison.
Tout à fait. Ça a permis justement de permettre à ces grands coureurs de nous rejoindre parce que la première question que les coureurs posent à ce moment-là, c'est quel sera votre marque de vélo l'année prochaine. Donc, je ne pouvais pas trop leur annoncer parce que le contrat n'était pas signé, mais j'ai réussi à les assurer qu'ils auraient une très belle marque de vélo avec eux. Effectivement, qu'avec BMC, on a une très belle marque qui nous suit, qui a une grande marque de cycle très performante. Voilà, donc ça, c'est un très, très bel atout.
Pas de Sagan.
Sagan, écoutez, je sais qu'on l'annonce un peu partout. J'ai entendu peut-être chez De Soninck, peut-être même chez Jean-René Bernodeau.
J'avais pas entendu. C'est bien, on va lancer une rumeur. Moi, j'avais entendu Movistar aussi, mais bon.
Oui, Movistar, j'ai entendu ça, mais aussi j'ai lu ça, qu'éventuellement Jean-René Bernodeau est intéressé aussi par. Voilà, après, je ne vous cache pas que j'ai eu aussi des sollicitations. C'est une réflexion que l'on a eue, mais aujourd'hui, ce n'est pas la piste qui est privilégiée.
Mais quand même, il y a une grosse piste. Est-ce que vous avez proposé un contrat à Julien Alaphilippe?
Alors, non, je n'ai pas vraiment eu le temps, même si la question en début d'année m'a été posée de savoir si Julien était susceptible de nous intéresser. Je lui dis bien évidemment, je vois pas quelle équipe ne serait pas intéressée par Julien Alaphilippe. Mais je crois qu'il avait, en vérité, il avait une clause dans son contrat au cas où donc De Soninck repartait, il devait repartir avec son équipe. Donc la question ne s'est pas vraiment posée.
D'accord. Même question de Michel et Jean-Christophe. Est-ce qu'on verra un jour une équipe féminine AG2R Citroën? On sait que l'équipe Cofidis lancera son équipe l'année prochaine. On a eu Cédric, hein, il nous a dit 10 filles, 5 étrangères, 5 françaises. Et en 2022, il y aura un tour féminin aussi qui va revenir.
C'est une vraie question qu'on se pose depuis un certain nombre de mois, d'années. Voilà. Donc on y travaille, on a une cellule chez nous au sein de l'équipe qui travaille là-dessus. Il faut pouvoir trouver le bon schéma, trouver les finances pour cela. Donc je peux simplement vous dire qu'aujourd'hui c'est un projet qu'on peut avoir, mais qu'il n'est pas encore prêt à être concrétisée. Maintenant, c'est une réelle réflexion que l'on a et qui mériterait effectivement de trouver une possibilité, parce que je crois que d'abord le cyclisme féminin s'améliore vraiment d'année en année, et on voit des filles qui sont sur le plan sportif, les filles ont vraiment beaucoup progressé.
Là, le niveau monte, on le voit tout le temps sur les antennes d'Eurosport.
On a vu beaucoup d'équipes se créer. Alors certaines ont le statut World Tour. Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai accompagnement et des vrais salaires et des vrais charges sociales qui sont là, qui permettent à ces filles d'évoluer à un bon niveau. Et si un jour on devait monter une équipe professionnelle féminine, ce sera dans des conditions où les filles sont salariées complètement avec on va dire un vrai statut professionnel.
Ouais, ce qui est le cas que si vous voulez être World Tour, hein. Il y a un salary cap maintenant, il y a même un salaire minima hein, pour toutes les filles. C'est toutes ça. Les équipes ne sont pas World Tour, il n'y a qu'une équipe hein, française pour le moment World Tour. Il s'agit de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Ils l'ont trouvé, hein, le grimpeur. Hein. Moi, j'ai pas eu besoin de le chercher, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Un grimpeur qui joue le classement général, il y a un nom qui revient, Warren Barguil. Il est en fin de contrat, je crois, chez Emmanuel Hubert. Ça vous intéresse, Warren ?
Oui, bah Warren. Alors, si je m'abuse, Warren, depuis un certain nombre de mois, même d'années, ne joue plus vraiment le classement général. Il se contente plutôt de faire des étapes, de perdre du temps un petit peu, presque volontairement, on dirait, sur les étapes de plaine ou de semi-montagne pour avoir un espace de liberté et remporter des victoires d'étape. On sait évidemment
parce qu'il y a Quintana aussi. Peut-être pour ça.
Oui, mais même avant, il le faisait. Même avant. Donc, est-ce qu'il a une réelle envie de jouer le classement général ? J'en suis pas certain. Maintenant, encore une fois, Warren est un garçon qui a évidemment beaucoup de talent. Et non seulement dans la montagne, mais vous avez vu que dans les classiques.
Ah bah, ça s'est frotté, ça s'est emmené en train.
Il est capable de jouer avec les meilleurs dans les classiques. Donc, voilà. Effectivement, c'est un très beau coureur.
Un grand merci Vincent Lavenu. On était à plus de 400 hein, dans le bistrot. Sébastien Petit va me le confirmer. C'est un gros succès, l'avenue de Vincent Lavenu. On a déjà eu Benoît Cosnefroy, on a déjà eu Aurélien Paré-Peintre hein, dans cette émission. La semaine prochaine, est-ce que vous le connaissez ? C'est le manager de la Wanty qui sera notre invité. Jean-François Bourlard qui sera dans le bistrot du vélo. On va voir ce qui se passe un peu dans les équipes belges. Ça peut être intéressant.
Très bien.
Et juste, vous savez quelle journée ? 24 mai, c'est l'anniversaire de Shane Kelly, vous le connaissez bien, mais c'est l'anniversaire de Tony Galopin aujourd'hui. Il a 33 ans, donc si vous avez oublié, vous avez le temps d'envoyer un petit texto à Tony, qui va remporter son étape, je vous le dis, sur le Giro, et comme ça, rentrer dans le cercle très fermé des Français avec une victoire sur chaque grand tour. Ce serait le dixième hein, seulement de l'histoire, il n'y a que des grands. Le dernier, c'était Thibaut Pinot, il y a Antil, bien sûr, il y a Bernard Hinault.
Il le mérite, effectivement.
On lui fait un gros bisou et on vous fait un très très gros bisou à vous et à toute l'équipe. Juste une question, la mode Servolex, le X on le prononce, oui. Ça, j'ai toujours un doute. Hein.
La mode Servolex. Très voilà. Bien. Comme quatrième ville de Savoie.
Oh, c'est le service course, bien entendu. Voilà. Un grand merci monsieur Vincent Lavenu. À très vite dans le
merci à
du vélo.
Vous.
Salut.
À bientôt. Salut à tous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.